la matinée directement. Donc, évidemment, ceux qui ont besoin de faire, d'aller prendre un café peuvent le faire, bien sûr. A fortiori ceux qui sont en Zoom. Mais on va enchaîner directement. Donc je demande à tous les participants de la table ronde sur l'éducation de bien vouloir s'installer. Et donc Éric Deschavannes, vice-président du Collège de philosophie, va animer cette table ronde. Et je l'en remercie très chaleureusement. Installez-vous où vous voulez, à vrai dire.
Pour repenser la transmission à l'école après la déconstruction et après la déconstruction de la déconstruction, nous avons autour de la table Charles Coutel, qui est philosophe et vice-président du comité Laïcité République, Mara Goyet, écrivain et professeur d'histoire géo au collège, et puis Alain Seguit, qui est secrétaire général du comité des sages de la laïcité pour l'éducation nationale. Nous aurons à distance Alain Frugière, qui est le directeur de l'INSPE Paris. Alors, pour fixer les idées s'agissant de la transmission à l'école, je vais simplement lister rapidement les débats qui existent objectivement en les datant, dont je tirerai trois questions que j'adresserai aux intervenants. Le premier débat, le plus ancien, c'est celui qui est relatif à la révolution du dernier demi-siècle à l'école, qui est la révolution de la démocratisation, démocratisation de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, le projet de conduire l'ensemble d'une classe d'âge jusqu'au baccalauréat. Donc cette révolution s'est accompagnée, on peut dater les débats de la réforme Abi en 1975, on appelait ça le débat sur le collège unique dans les années 80, il s'est accompagné donc d'un vif débat sur les questions pédagogiques opposant les progressistes réels ou supposés, les conservateurs réels et supposés. Donc la question étant justement comment réussir cette démocratisation, quelles sont les conditions pédagogiques de cette réussite. Et donc on avait dans un camp les partisans de l'adaptation pédagogique au nouveau public et en gros de l'autre les partisans du maintien du niveau d'exigence qui était sceptique ou qui était méfiant à l'égard des réformes initiées en vue d'adapter le système à la démocratisation. Vous avez tous en tête les slogans « mettre l'élève au centre de l'école, de la relation pédagogique » ou bien, pour leurs adversaires, « mettre au centre ou garder au centre les savoirs ». Alors, le deuxième débat, c'est le débat relatif à la nouvelle question laïque. Je reprends ici le titre d'un livre du regretté Laurent Bouvet qu'évoquait Dominique Schnapper ce matin. C'est un livre dans lequel il fait la généalogie de cette question. Précisément, là aussi, on peut dater l'origine du débat, puisque c'est l'affaire du voile, l'affaire de Creil, l'affaire du voile en 1989, qui la déclenche. Et donc, le problème n'est pas du tout, le défi n'est pas du tout celui de la démocratisation, c'est celui de l'intégration de l'islam à la République, de l'intégration des élèves musulmans et, par extension, de tous les élèves issus, les enfants issus de l'immigration et notamment de l'immigration non européenne. Alors, on va voir se mettre en place une nouvelle opposition entre, tout le monde est évidemment partisan de l'intégration, de la laïcité et des valeurs de la République, mais on va voir une opposition entre les partisans d'une assimilation républicaine et qui s'oppose aux partisans, disons, d'une inclusion libérale, donc défense, assimilation par les valeurs républicaines d'un côté, inclusion par le droit à la différence de l'autre, avec un débat d'interprétation sur le sens des valeurs républicaines, sur le sens de la laïcité, et donc un débat qui est toujours actuel, bien entendu, et là aussi qui met aux prises des progressistes réels ou supposés et des conservateurs réels ou supposés. Et puis, troisième débat qui va interférer avec les deux premiers, c'est le plus récent, c'est celui dont on a beaucoup parlé en fait durant ces deux journées, c'est le débat autour de l'école inclusive. Anne-Marie Le Pourrier en a parlé à propos de l'université ce matin. Il y a aussi, évidemment, au niveau de l'école, ce projet d'une école inclusive et d'une école qui construise une société inclusive. Alors, là aussi, vous avez les partisans sans réserve de cette école inclusive et puis leurs adversaires critiques et sceptiques, dont je suis, qui soupçonnent ce vocabulaire et cette notion de servir de cheval de Troie au wokisme. Wokisme, on a pu définir comme la pensée de la déconstruction de toutes les dominations, qui suggère qu'il y a une domination systémique dont les savoirs eux-mêmes et les valeurs républicaines pourraient être l'instrument et le véhicule. Et donc, on va avoir, disons, un débat dont on peut considérer, là pour aussi fournir une date repère, considérer qu'il a été introduit par le dispositif des ABC de l'égalité, en 2013. Alors, le mot woke n'existait pas encore, mais l'idée et le projet étaient déjà là, puisqu'on avait deux ministres, dont le ministre de l'Éducation nationale, malheureusement, qui ont avancé l'idée que les études de genre étaient des savoirs scientifiques et qu'au nom de ces savoirs scientifiques, on allait précisément réformer l'école pour réformer les esprits, se débarrasser des stéréotypes sexistes, des stéréotypes inconscients, faisant obstacle à la domination systémique dont seraient victimes les jeunes filles à l'école, en dépit du fait qu'elles réussissent mieux que les garçons d'ailleurs, mais et qui se manifesteraient notamment au moment de l'orientation. Donc ce dispositif était mis en place par des sociologues du féminisme du genre qui, à la fois, souhaitaient déconstruire ces stéréotypes chez les enfants dès la maternelle et en même temps rééduquer les professeurs en leur faisant prendre conscience de la présence en eux de ces stéréotypes inconscients, en quelque sorte, qu'il faudrait déconstruire pour arriver véritablement à l'égalité. Alors là où je veux en venir, c'est que ça concerne le problème de la transmission, bien évidemment, parce que ça consiste, en quelque sorte, à inverser les missions de l'école, puisque la transmission, les conditions et le contenu même de la transmission deviennent, en quelque sorte, le moyen, non plus la fin, mais le moyen mis au service de l'éradication des inégalités et des discriminations. Alors, l'exemple du féminisme est très bon, puisqu'on l'a vu hier et aujourd'hui, encore avec la question de la langue. Eh bien, du point de vue du féminisme, évidemment, la transmission est en soi un problème, puisque, par définition, la transmission, c'est la transmission de l'héritage, le legs du passé, et que pour le féminisme, évidemment, le passé est problématique, comme on a dit hier, parce qu'il est justement le passé de la domination masculine, qu'il s'agit de déconstruire, et qu'on retrouve présent, y compris dans les classiques, dans les chefs-d'œuvre qu'il faut déconstruire, dans la langue elle-même qu'il faut déconstruire, et puis dans la disparité des auteurs du programme, des personnages historiques, etc. Donc il y a tout un programme possible de réforme de l'école, de réforme des conditions de la transmission, du contenu de la transmission, à travers, justement, la mise en œuvre de ce qui serait le savoir scientifique, dont on a vu hier aussi qu'il est, le problème est devant nous, puisqu'il est transmis aux futurs professeurs et aux futurs administrateurs du système éducatif dans nos universités et dans nos écoles. Donc je déduis de cette petite présentation des trois débats trois questions dans lesquelles vous ferez votre marché. Première question, quelles sont les conditions pédagogiques de la réussite de la démocratisation de l'école? Deuxième question, comment intégrer les élèves musulmans par l'inclusion ou par l'assimilation républicaine? Et puis, faut-il consentir donc à cette redéfinition de la transmission, des conditions et du contenu de la transmission pour éradiquer les inégalités et les discriminations systémiques? Alors, je passe la parole en premier lieu à Charles Coutel, qui va peut-être approfondir justement la question de la transmission sous l'angle philosophique. Donc Charles Coutel est philosophe, il est professeur des universités en philosophie du droit, il est aussi vice-président du comité Laïcité République et rédacteur en chef de la revue Cause Républicaine.
Merci Eric, Monsieur le Président. Si vous le permettez, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je sais qu'on a des problèmes quelquefois de connexion, donc je salue les organisateurs, les membres de cette table ronde et nos amis qui sont à distance. Qu'il me soit permis de rendre un double hommage dont le sens symbolique va dans le sens de notre réflexion remplie d'esprit de reconstruction. Tout d'abord, à tout républicain, tout honneur, Louis Liard, qui mérite le nom, de porter le nom dont l'amphithéâtre porte tout à fait le nom, comme j'espère sous peu, un amphithéâtre portera le nom de Charbes. Premier hommage à Louis Liard. Il est celui qui relie la tradition des Lumières à la tradition médiévale de l'université, à travers une formule que je ne peux que citer sans la commenter. Le but de l'université, c'est de faire en sorte, je le cite, de se méfier du fait brut sans la raison du fait. L'autre hommage est tout à fait personnel, si vous le permettez, c'est par rapport à Jacques Muglioni, mon ami, mon maître, qui un jour, sous forme de confidence, m'a dit « Vous verrez, on apprendra un jour à parler la langue comme on la parle, au lieu de l'apprendre comme on doit la parler. » La reconquête de la normativité éclairée de la langue est effectivement un enjeu central de la question de la transmission. Que donner à chaque enfant de notre démocratie républicaine, cher président de séance, le meilleur ? Pour cela, de nouveau, que les meilleurs étudiants aient envie de redevenir professeurs. Les autres réponses aux questions viendront dans un peut-être second tour de prise de parole. Je voudrais m'attacher, tout en ayant en tête les questions de notre ami, de commenter la dernière phrase de notre argumentaire de colloque, qui, à côté de la nécessaire et douloureuse critique de l'obscurantisme militant qui non seulement menace mais sévit, attire notre attention sur la positivité de l'idée de transmission. La dernière phrase de notre argumentaire est la suivante. Il s'agit avant tout de favoriser la construction, nous y sommes, chez les élèves et les étudiants, des repères culturels fondamentaux. Étudiants, j'ajouterai aussi, chers collègues de l'Institut de formation, les stagiaires en formation, bien entendu. Repères culturels fondamentaux. Ma thèse, c'est qu'il faut approfondir l'idée de culture universelle pour en déduire une théorie de l'école, et cette théorie de l'école renforcera une théorie de la République. Hommage encore à Jacques Muglioni, lorsqu'il écrit « Une République vaut ce que vaut son école ». Point. Dans les 7 minutes, 6 minutes, 7-8 minutes, on ne peut se contenter que d'haïkus relativement frustrants. Mais il faut prendre le temps de commenter un chiffre. Dans un récent livre, « La fracture », Frédéric Dabi et Stewart Shaw nous assènent un coup qui permettrait de comprendre la distinction politique et éthique de Peggy, qui dit que dans les crises de la démocratie de la République, il est temps de passer, il parle pour lui et en fonction de son propre courage, l'affaire Dreyfus. Passer, dit-il, de la méthode médicale, contexte actuel, je n'insiste pas, à une méthode chirurgicale. Il faut savoir trancher, prendre position et avoir le courage de dire non. Les intervenants de la précédente table ronde se reconnaissent dans ce volontarisme que je préfère appeler méliorisme. Appuyons-nous sur ce qu'il y a de pire aujourd'hui pour en tirer les leçons. Nous pouvons le faire. Mais pour cela, ce sera la fin de mon propos, il faut que nous sachions tirer les leçons humblement du dernier chapitre inachevé de Bouvard et Pécuchet, inachevé parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer que Bouvard et Pécuchet auraient fait des petits, si je puis dire. Deuxièmement, Primo Levi, qui nous montre qu'il n'est plus possible de transmettre quand les fascistes, les nazis sont au pouvoir. Et enfin, une formule de Peggy que je réserve pour la fin. Ce chiffre est terrible. Quand on pose, disent les auteurs dont je viens de parler, auprès de la population des 18-35 ans. Plusieurs questions, plusieurs réponses étaient possibles. Quels sont pour vous les handicaps de la France ? Premièrement, à 44% le chômage, bien évidemment. Deuxièmement, 36% l'affaiblissement de l'école et du système éducatif. Troisièmement, donc, la dette par habitant, ensuite l'immigration, ensuite la menace terroriste. Dont acte. J'insisterai bien sûr sur l'importance de ce chiffre 36%. Autrement dit, la jeunesse actuelle se sent de plus en plus désœuvrée, pour reprendre la belle formule de mon ami et collègue Denis Cambouchner. Vous verrez le sort que je veux réserver à l'idée de désœuvrer. Pourquoi est-ce important? Et qu'est-ce qui nous empêche d'inverser les choses? C'est que deux confusions prospèrent, on en a parlé. La première confusion consiste à confondre, communiquer et transmettre. Cela n'a rien à voir, quoique. Les confusions qu'on entretient sur ces mots expliquent pourquoi nous piétinons. Et puis l'autre, plus douloureuse, nous n'arrêtons pas, on en a parlé hier, n'arrête pas de confondre le patrimoine et la mémoire. Le patrimoine, mes amis, c'est mettre la mémoire en berne. Blague. Stéphane Bern, je suis mauvais. Ça veut dire que quelqu'un qui commet la première confusion va entretenir la deuxième. Rappelons-nous de la belle formule de Régis Debray. La transmission est un transport qui transforme. Mais, fin de citation, mais cela est très exigeant, puisque cela implique, quand on se transforme, de savoir d'abord qui l'on est pour se transformer. Ce qui fait que si on n'est pas au clair avec ce que l'on est, alors on se répète et on est dans le mantra, dans le mot d'ordre, on vient d'en parler dans la précédente table ronde. Voilà pourquoi la sémantique de repères culturels fondamentaux, ces trois termes sont absolument les clés de la reconstruction. Une partie importante de notre jeunesse, nous l'avons dit, se sent désœuvrée. Mais désœuvrée, cher Denis Cambouchner, a au moins trois sens. Désœuvrer, ça veut dire déclasser quand il s'agit de commencer à travailler, déclasser socialement parce que, malgré le jeunisme ambiant, la jeunesse est maltraitée, et puis, ce sera ma thèse, désœuvrer parce qu'elle est coupée des œuvres, elle est empêchée d'avoir accès aux œuvres qui ont fait la grandeur de l'humanité. On s'est évertué depuis les années 70, et là je réponds à votre question. Depuis 1974, M. Giscard d'Estaing cédant au charme ravageur de Natacha Polony, en 2016 l'a dit, par la réforme ABI, je voulais à tout prix éviter un retour de mai 68. Mai 68, je suis coupable de l'avoir un petit peu, j'y ai participé, nul n'est parfait. C'était une révolution de petits messieurs cultivés. Sujet, verbe, complément. On avait appris des choses, même si on était dans le manque de reconnaissance. Depuis, et c'est évidemment ce qui est valable là ne l'est pas ailleurs, l'école est devenue un lieu de socialisation prétendument professionnalisante et non plus d'émancipation individuelle par les savoirs, les pratiques et les arts. Œuvre renvoie à la fois au savoir, mais aussi aux œuvres d'art. Le résultat le plus pitoyable est bien évidemment le désolant vivre ensemble qu'on nous resserre tous les jours. Il fallait donc couper la jeunesse de la culture humaniste universelle héritée. Vous noterez d'ailleurs que la plupart des prix Nobel américains ont fait leurs études secondaires ailleurs qu'aux États-Unis. Le woke, ce sont d'abord des kyriels d'ignorants qui, comme les aveugles de Bruegel, se cassent la figure les uns les autres. Mettez dit woke quelque part, il y a déjà trois tendances. Les jugements suivants de Pierre Legendre sont fort précieux et me permettra d'énoncer une thèse que je mets en débat popérien. La première citation de Pierre Legendre, « Nous traversons une période d'obscurantisme militant ». Il écrivait déjà cela en 2006, mes amis. Et la deuxième est bien plus lourde. La mondialisation pose la question de l'ancestralité. Notre amie Claire, hier, a parlé deux fois du rôle important structurant des ancêtres pour elle. J'énonce ma thèse. Les woke organisent l'amnésie de l'ancestralité. Les djihadistes de tous bords, parce qu'il y a sans doute des djihadistes ailleurs que dans l'islam, les djihadistes organisent l'amnésie de la modernité. Je crains par-dessus tout un arc idéologique et une sorte de coalition de ces deux amnésies. Je vous signale, Eric en a parlé, que déboulonner des statues n'est pas la spécificité de nouveau, parce que les talibans, ils les font exploser. Dans ce contexte d'amnésie voulue et assumée, l'exigence de transmission est donc centrale. J'énonce la thèse, la transmission bien comprise, dégagée du roman du patrimoine, mais aussi du roman communicationnel, et le préalable philosophique au remède de cheval, en 6 propositions que je proposerai si on m'en laisse le temps. Alors, que faire? Il faut d'abord, un peu en changeant ce qui doit être changé...
Déjà terminé, oui, oui. Il faut conclure.
J'ai juste une image à projeter. Il faut faire ce que Thalès a fait au pied des pyramides, car c'est le longtemps passé au pied des pyramides qui a engendré la géométrie. Eh bien, je lance un petit effet de laboratoire, une expérience, si on peut projeter l'image que je vous ai. Voilà. Alors, franchise. Je fais de cette image du Bernin le programme de reconstruction, de réappropriation, par soi-même, car ce ne sont pas les ennemis qui font souvent problème, c'est l'hésitation giscardo-orléaniste qui nous a bernés. Je reviens sur ma blague que vous n'appréciez pas. Bon. C'est votre problème, moi je l'aime bien. Pourquoi? Parce que cette image, elle est programmatique. Que fais-tu quand une ville brûle? Et ce n'est pas que le torchon qui brûle aujourd'hui, mes amis. Tu prends d'abord celui qui est le plus vulnérable, comme on dit maintenant. Enchise, paralysé, tu t'avises et tu vérifies que l'épouse est Ascagne, sois bien là, Ascagne, qui lui a comme charge de porter le feu du foyer, le foyer. Alors il y a 4 niveaux qui sont autant de 4 moments architecturaux, des prolégomènes. Alors c'est important la transmission, mes amis, parce que c'est la condition de l'estime de nous-mêmes. Rémi, Nathalie, les tensions stratégiques ou tactiques sont importantes, mais l'essentiel, c'est de relever le gant de la culture universelle. Premier niveau.
Non, Charles, il faut conclure. Voilà.
Alors, j'évoque, j'ai compris.
Pas trop. Non, pas le temps des 3 niveaux.
Oui, j'évoque les 3 moments éthico-philosophiques qui caractérisent cette stratégie de la réappropriation, de la reconstruction. D'abord, plus qu'on ne l'a fait, attention aux mots que nous laissons dire. J'ai entendu même ici, hier, enjeux sociétaux. Mais avec un vocabulaire pareil, on recule. C'est du gamelin. La défense élastique. Deuxièmement, non seulement nommer, mais aussi redonner toute sa place à l'argumentation. Enfin, et je mets les pieds dans le plat pour vraiment finir, ne boudons pas notre plaisir lorsque nous disons « Ah ben voilà, elle est partie, Enchise est partie. » Reconquérir le désir d'admirer. Le grand philosophe Naber, maître de Ricoeur, va jusqu'à dire que nous pourrions peut-être un jour vénérer, c'est-à-dire admirer en voulant grandir ensemble. Je vous remercie.
Bien, après ce beau discours sur la nécessité de la reconquête de la normativité et de l'autorité du savoir, on va peut-être demander à Alain Frugière, qui est professeur de physiologie à Sorbonne Université, mais qui est surtout donc directeur de l'INSPE de Paris et président du réseau des INSPE. Je vous rappelle que INSPE, ça signifie Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation, que les INSPE ont pris le relais des UFM et ont en charge la formation des enseignants. Et donc, on va demander à Alain Frugère de nous parler donc de la manière dont il conçoit les enjeux de la formation des profs, notamment s'agissant de la transmission des valeurs de la République et du principe de laïcité.
Donc on a un problème de son.
Moi je peux passer.
Tu veux y aller?
Ouais.
Alors allez, Alain, peut-être c'est réglable ou on va peut-être Alain passer donner la parole à Maragoya le temps que le problème technique soit résolu.
Alors vous avez parlé d'une statue qui est d'ailleurs déjà au programme de collège en EPS, ça s'appelle de l'acrosport. Non, j'ai l'habitude de parler avec un masque. Non, mais... Ah bon, si on n'entend pas. Bon.
Donc,
la statue que vous avez représentée, dont vous avez parlé, ça s'appelle de l'acrosport et c'est au programme d'EPS, de l'EPS au collège. Voilà, donc soyez rassurés. Et je voudrais vous parler aussi, moi, de quatre statues. Ce sont celles qui sont devant l'Assemblée nationale et j'avais entendu, je ne sais plus où, une fois, disant que c'était le déclin de l'éducation parce que plus aucun élève n'était capable de dire qui étaient représentés sur les quatre statues qui sont devant l'Assemblée nationale. Et je ne suis pas sûre que parmi nous, voilà, je ne vais pas faire d'interro, bien que prof de collège dans l'âme, mais bon, je ne suis pas sûre que tout le monde le sache. En tout cas, depuis, vexée et piquée au vif, je m'attache à expliquer aux élèves qui sont ces quatre messieurs parmi les plus célèbres. Il y a évidemment Colbert. Et voilà, donc mes élèves connaissent Colbert. Colbert est au programme. Ils ont entendu parler. Et voilà. Quand a eu lieu toutes les affaires autour de la statue de Colbert, évidemment, qui a été maculée, qui a été l'objet de polémiques, évidemment, j'en ai parlé avec mes élèves qui connaissaient Colbert. Et vous allez voir que toutes les discussions qu'on a et que vous avez pu avoir ici sur la cancel culture, c'est vraiment plus compliqué avec des élèves. Non pas parce qu'ils ne comprendraient pas ces débats, non pas parce qu'ils y sont insensibles, mais c'est parce qu'à des enfants, on ne peut pas dire la même chose qu'à des adultes, parce que les enfants nous obligent. Donc vous voyez, on parle de Colbert, les élèves n'en discutent, que faire de cette statue, puis on parle évidemment du Code noir. Les élèves sont au courant de ce qu'est le Code noir, on l'a étudié en histoire. Mais est-ce que vous voyez expliquer à des enfants de 13 ans que, oui, mais bon, l'être humain, quand même, oui, mais c'est compliqué, vous savez, les petites faces d'ombre, oui, mais en fait, quand même, le code noir, à la limite, certains vont dire que c'est de la philanthropie, le code noir. Donc, vous voyez, avec des enfants, on ne peut pas faire ça. Ça serait même indécent d'expliquer aux enfants que tout va bien, que chaque être humain, son petit coin d'ordure et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, c'est de discuter avec eux, de voir que, évidemment, si on enlève toutes les statues des gens qui ont fait la moindre faute dans leur vie, ben, il ne va plus rester grand monde, comme dirait Boris Vian. Et donc, ça serait une carte de pureté qui est absurde. Mais en même temps, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Quand on étudie, par exemple, les plans de la ville de Nantes dans le cadre du cours sur les négociants et le commerce transatlantique, voilà, ils voient qu'il y a des rues de commerçants qui faisaient du trafic d'esclaves, et c'est normal qu'ils se posent des questions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont outrés, ça ne veut pas dire qu'ils contestent le cours. Ils se demandent. Et la réponse, elle ne peut pas être simple. Voilà, donc avec les enfants, on est obligé d'avoir une réponse nuancée et de chercher justement à construire quelque chose et à chercher ce qu'on pourrait faire. Et en général, ils s'accordent sur le fait que, ben voilà, il faut de la pédagogie, il faut savoir qui est Colbert, et qu'une fois qu'on sait qui est Colbert, ben passer devant sa statue, ben c'est plus simple. Voilà, on sait qu'il y a le code noir, on sait qu'il y a autre chose et que c'est plus simple. Je voudrais aussi vous parler d'un autre sujet qui est ce livre. Ce livre, Tamango, c'est une petite nouvelle de Mérimée et c'est une nouvelle qui est écrite en 1829 et qui dénonce l'esclavage. C'est une nouvelle que je lis tous les ans devant mes élèves, intégralement. Et il se trouve que, bon, c'était l'époque, que cette nouvelle qui dénonce l'esclavage contient de nombreux moments racistes, de termes racistes. Les Africains dansent comme des enfants, sont naïfs, sont crédules. Voilà, donc c'est quand même assez raciste. Eh bien, ce livre, je le lis à haute voix. Je n'ai jamais été pour, dans ma vie, qu'on censure des livres, qu'on les édulcore, qu'on les expurge. Je suis contre, je suis pour qu'on les contextualise. Mais figurez-vous que je me suis surprise, en le lisant à haute voix, eh bien, à le reformuler des propos racistes, à les atténuer. Parce que tout bonnement, quand on dit des choses racistes en classe, des mots racistes en classe, on a beau se dire c'est l'époque, on a beau expliquer, au bout d'un moment quand même, après une demi-heure de lecture, j'ai dit 50 mots racistes ou j'ai évoqué 50 choses qui sont racistes, eh bien ça finit par être raciste. Donc vous voyez, avec les classes, c'est compliqué. Je dis juste que c'est compliqué et qu'il faut y réfléchir et qu'il ne faut pas y réfléchir juste ici, entre nous, dans des guerres idéologiques, il faut y réfléchir avec des élèves. Avec les élèves, il faut leur expliquer pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est complexe, pourquoi il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut expliquer aussi les débats, qui et pourquoi et tout ça. Et vraiment, c'est comme ça qu'on s'en sortira, en leur faisant confiance, en ne les prenant pas en otage, mais en leur expliquant ce qui se passe et en tentant de voir comment eux réagiraient. Et vous verrez que c'est, en général, ça se passe très bien, et pour le coup, c'est constructif. Alors, j'ai un troisième point, je vais beaucoup plus vite, c'est celui de la déconstruction. Évidemment que c'est un peu compliqué de déconstruire en classe alors qu'on n'a pas encore construit. Et c'est même absurde. Et on ne va pas déconstruire et construire en même temps, voilà, sinon on a l'impression d'être Pénélope et sa tapisserie, ce n'est pas possible. Mais il n'empêche qu'il n'est pas impossible de construire, c'est-à-dire donner les repères culturels, comme vous l'avez dit, ça c'est fondamental, et vous avez raison, donner les grands moments de l'histoire, enfin voilà, mais expliquer aussi pourquoi on les transmet. Et pour ce faire, il y a un ouvrage fondamental, c'est Les lieux de mémoire de Pierre Nora. On ne peut pas dire que Pierre Nora soit un adepte de la cancel culture, ni un wokiste effréné, mais voilà, avec Les lieux de mémoire, vous faites étudier aux élèves Vercingétorix, Alésia, les Gaulois, tout ce que vous voulez, mais vous leur expliquez pourquoi on le fait aujourd'hui. Vous expliquez pourquoi on fait les Gaulois et pas les Mérovingiens, pourquoi c'est plus dans les programmes. Donc tout ça, ça mérite d'être traité frontalement avec les élèves qui, à leur âge, sont encore constructifs, ont du répondant, peuvent y réfléchir, mais on ne doit pas le faire sans eux. On ne doit pas passer notre temps non plus à expliquer tout ce qu'on fait, hein. Mais quand il y a des débats, c'est avec eux et pas dans leur dos qu'on doit le faire. Et justement, j'en arrive à mon avant-dernier point, c'est les progrès que peuvent faire les élèves. Vous voyez, là, je vous parle en gros de l'année de quatrième, où on a parlé de Colbert, où j'ai lu Tamango en expliquant mes difficultés, où on parle de tout ça. Et puis, ensuite, j'ai fait, évidemment, la Révolution française. Et comme chaque année, au collège, en quatrième, il y a le débat, faut-il changer les paroles de la Marseillaise ? Bon, ça fait 25 ans que je le fais. C'est un peu répétitif, on en discute, mais c'est intéressant pour les élèves. Eh bien là, cette année, à part une élève, les autres m'ont dit que ma question était complètement idiote, que, évidemment, c'est anachronique de vouloir changer les paroles, que ça reflétait une époque. Donc voilà, donc, en même temps, il faut leur faire confiance. Ils disaient qu'en effet, ce n'était pas génial, qu'il y avait des passages qui n'étaient pas glorieux pour notre République aujourd'hui, mais que c'était un témoignage de l'époque et qu'il fallait le contextualiser. Donc vous voyez, les élèves, eux, ils sont constructifs et eux, ils comprennent, mais ils nous obligent à être nuancés, à ne pas nous laisser aller, à penser que, en fin de compte, le code noir, c'est juste une petite partie de la vie de Colbert. Mais voilà, ça nous incite aussi à être plus nuancés, à être plus fermes. Vous aimez beaucoup Peggy, donc ferme et souple, et pas rigide et mou, c'est essentiel. La dernière chose que je voudrais dire, puisqu'on va parler de la transmission, de la formation des professeurs, c'est que pour faire tout ça, il faut un climat propice dans les classes. Et ce climat, ce n'est pas juste une classe très sage, il faut un lien avec les élèves. Le lien avec les élèves est, à mon avis, le grand oublié de la formation des enseignants depuis très très longtemps et des politiques éducatives en France, c'est le lien avec les élèves, la communauté de la classe dans laquelle on peut avoir des discussions extrêmement élaborées, extrêmement pointues. Et je voudrais justement lire un petit texte, je suis désolée mais il n'est pas très long. Je crois que c'est pour moi le texte qui, c'est pas peut-être le plus beau texte sur l'éducation, mais c'est le texte qui, comme professeur, m'a le plus changé, bouleversé, et j'ai compris enfin ce qu'était la beauté du métier. C'est un texte de Jean-Pierre Vernant sur l'amitié. Et donc, il explique qu'il y a plusieurs stratégies avec les élèves. En gros, on peut surjouer une distance immense. On peut aussi bannir les codes de la hiérarchie, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, évidemment, et jouer la proximité et l'amitié. Et il écrit, si on entre dans le jeu de l'abolition de la hiérarchie, ce n'est pas simplement de l'habileté, c'est aussi une esthétique et une éthique de la relation sociale. Il faut commencer par cesser d'être professeur pour pouvoir l'être. Ça, je ne suis pas sûre que ça aiderait des stagiaires, mais cela signifie obligatoirement, à mon avis, c'est une idée grecque, que toute relation sociale avec une classe, comme avec le groupe dans lequel on s'est engagé dans la résistance, implique un ciment qui est l'amitié. Cet élément fondamental est le sentiment d'une complicité, et la complicité est fondamentale en classe, d'une communauté essentielle sur les choses les plus importantes. Dans le rapport du professeur avec ses élèves, c'est le fait de partager une certaine idée de ce que doit être quelqu'un, d'avoir en commun une certaine forme de sensibilité, d'accueil et autrui, de s'accorder sur l'idée qu'être autre signifie aussi être semblable. Voilà, je crois qu'il a tout dit sur la manière dont ces débats peuvent entrer à l'école et notamment au collège. Merci.
Il faut lire Mara Goyet parce que ses textes sont aussi brillants et intelligents que son intervention aujourd'hui. Donc on va peut-être... Est-ce que tu souhaites parler tout de suite? On va peut-être justement prolonger la réflexion sur la formation des enseignants avec Alain Frugière.
Si on peut le joindre. Merci, vous m'entendez?
Oui.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Est-ce que vous m'entendez ou pas?
Oui, Alain, c'est parfait.
C'est parfait, bon, merci, Pierre-Alain. Merci, désolé pour, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le contre-temps de tout à l'heure. Donc, merci. Alors, je vais essayer d'être bref, parce que je crois que le temps est compté. Mais d'abord, mes remerciements, bien évidemment, aux organisateurs de me donner la parole. Alors, d'autant plus que moi, contrairement aux collègues qui sont autour de la table, je ne suis pas un spécialiste en termes de recherche des questions qui sont traitées. Je ne suis pas non plus un praticien. Donc, je parle là vraiment au nom des instituts et des écoles de formation des enseignants et des CPE, donc mandatés par la loi, bien évidemment. Donc, c'est à ce titre-là que je suis là. Donc, merci vraiment pour ce temps de parole. Je vais simplement commencer par... Je n'avais pas prévu de commencer comme ça, mais je souscris à ce qu'a dit notre collègue juste à l'instant, effectivement. Je crois que je ne vais pas reprendre son discours parce qu'elle l'a dit bien mieux que je ne pourrais le faire. Mais en tout cas, c'est effectivement essentiel. Alors... Pour dire quelques mots très brefs, je ne vais pas aborder tous les points qu'on pourrait l'être, parce que, encore une fois, en 8 minutes, c'est assez court. Mais si on se place d'une démarche historique, je crois que la France a fait le choix, et le choix très tôt, je crois, dès la Révolution de 1789, et le premier projet d'école républicaine, par Condorcet en 1792, d'avoir un enseignement qui est basé sur la raison émancipatrice. Et c'est un choix qui a conduit à un enseignement laïque, qui tournait le dos, pour faire simple, encore une fois, à l'Église catholique qui avait jusqu'alors le monopole de l'éducation. Aujourd'hui, on est confronté, on le sait bien, dans le pays de Pasteur, des Lumières, de Claude Bernard, qui est à côté de la Sorbonne, comme dans d'autres pays, on a une recrudescence quand même de témoignages d'élèves qui peuvent refuser certains savoirs scientifiques, certains savoirs historiques. Alors nous, en tant qu'organisme de formation des enseignants, des CPE, ça nous interpelle vraiment. Alors, comment faire pour réagir face à cela? Je crois qu'il y a un premier élément, c'est on est des fonctionnaires de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale, on doit se référer au texte, et en particulier au code de l'éducation. Et il y a un article que vous connaissez, qui est l'article L111.1, qui indique bien qu'outre la transmission des connaissances, bien évidemment, mais la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République, le service public d'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Et il est précisé que dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs. Voilà. Faire partager les valeurs de la République française, c'est également pendant la première compétence commune du référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation. Tout ça pour dire que les valeurs de notre République sont bien au cœur de notre projet républicain et doivent être au cœur de la formation initiale des enseignants. Alors, c'est d'ailleurs le cas, je ne vais pas faire l'historique, mais on y travaille depuis un certain nombre d'années, au moins depuis 2013, et on a d'ailleurs des référents, hein, laïcité, valeurs de la République dans les institutions, on travaille, et je salue Alain Sexy qui est présent, avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années, et on a aussi un travail en commun, bien sûr, avec les directions, avec le Conseil des sages, notamment pour co-construire, je dirais, un véritable référentiel de formation des enseignants de CPE sur ces sujets. Alors, je vais être bref, vraiment, quelques mots sur la formation, que se passe-t-il dans les INSPE ? Parce que c'est une question importante aussi qui se pose souvent. Alors, les INSPE, je l'ai dit, forment les enseignants dans le cadre d'un master, donc 2 années de formation, c'est le cas, à peu près 800 heures de formation, des stages, je passe. Dans le cas de cette formation, on a un module de 36 heures qui a pour objet de former les étudiants, les futurs enseignants, aux valeurs de la République française. Et ils s'organisent sous deux façons, on va dire, essentielles, des enseignements qu'on appelle transversaux, communs à l'ensemble des étudiants, quelle que soit leur discipline, quel que soit le niveau d'enseignement. Hein, ça va être connaître le principe de laïcité, ses dimensions juridiques, historiques, philosophiques, les contextes d'application, etc., etc. Une deuxième moitié, donc 18 heures, qui est intégrée aux disciplines d'enseignement, notamment pour les enseignants, bien sûr, les futurs enseignants, et pour les enjeux éducatifs pour les futurs CPE. Et je crois que c'est important aussi, c'est d'avoir ces deux éléments, notamment cet ancrage disciplinaire, d'abord parce que les questions ne sont pas tout à fait traitées de la même façon en SVT, en EPS, en littérature, et ensuite parce que les étudiants les connaissent, ils aiment les disciplines qu'ils enseignent, et donc tout ce qui peut se raccrocher à leur discipline est quelque chose d'important. Alors, cette formation-là ne se réduit pas, bien sûr, à ces 36 heures. On a également des conférences générales. Pierre-Henri est venu, a eu la gentillesse d'en faire plusieurs. Alain Sexy est aussi venu plusieurs fois. Il y a un grand nombre de collègues qui interviennent. Mais aussi, je dirais peut-être surtout, par une formation, je rejoins ce qui a été dit précédemment, peut-être, à une formation à la rigueur scientifique. À la démarche scientifique, l'esprit scientifique, c'est-à-dire une approche rigoureuse de la réalité, de se construire progressivement et tout au long de la scolarité, et ce, dès l'école maternelle. Il faut vraiment arriver à construire une rigueur intellectuelle auprès des élèves. Alors, c'est plusieurs éléments, hein, c'est-à-dire amener les élèves à se poser des questions scientifiques, réellement, hein, pas des questions hors de sens, comme on peut en avoir parfois. Une des qualités, je crois, presque la principale des scientifiques, c'est de savoir se poser les bonnes questions. Et c'est quand même une qualité qui se travaille. Faire toute une historique là-dessus, mais il y a un exemple que je prends souvent avec mes étudiants, étudiantes, c'est-à-dire, je suis prof de physiologie, ça a été dit, donc quand je travaille sur l'observation, on travaille sur les poissons, tout le monde a vu des poissons, la plupart des poissons qu'on connaît, les télocèles classiques, il y a un nombre de nageoires qui est fixe, et pourtant, j'ai posé la question pendant un certain nombre d'années, j'ai jamais eu la réponse, parce que tout le monde a vu des poissons, mais personne ne s'est posé la question, donc personne n'a vraiment observé. Je ne donnerai pas la réponse tout de suite, mais peut-être plus tard. Donc, la prise d'autres éléments peuvent intervenir dans cette construction de cette rigueur, notamment la prise de conscience que sur tout sujet, nous avons toutes et tous des représentations fausses en partie ou en totalité. Si je sors des sciences, on en a parlé, mais la violence, par exemple, dans la société, c'est quelque chose qui existe, qui peut être nié, bien évidemment. On voit tout ce qui a pu se passer, et notamment, je pense à l'assassinat de notre collègue Samuel Paty, à qui je rends hommage. Plus d'un an maintenant. Mais néanmoins, quand on voit les chiffres, il y a quand même beaucoup moins de morts par violence aujourd'hui qu'il n'y avait au Moyen-Âge. Même le nombre de victimes moyennes par conflit dans le monde a diminué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, quels sont les autres éléments importants ? Savoir que la plupart des vérités scientifiques ne sont pas logiques, ne sont pas évidentes, ne sont pas intuitives. Elles sont souvent construites contre l'évidence ou même contre le bon sens. Là encore, il peut y avoir de nombreux exemples. Digestion en particulier, ou ce qui pourrait être logique, le plus accessible, n'est pas la réalité. La réalité scientifique, c'est une réalité, bien évidemment. Ce n'est pas quelque chose qui peut se discuter. Je terminerai là-dessus. Il y a aussi un élément sur pour construire ce que c'est qu'une démarche expérimentale. Et on le voit bien, l'importance avec les sujets d'actualité sur la vaccination liée à la pandémie et la COVID-19. Le fait de ne pas comprendre ce que peut être une véritable expérience scientifique, ce que c'est un test, ce que c'est un témoin, un seul facteur qui varie entre les deux, une reproductibilité des résultats, fait qu'on entend des choses complètement absurdes qui sont dites et répétées partout. Et qui, c'est grave pour plein de raisons, notamment parce que ça entraîne des morts d'êtres humains. Donc, pour terminer, pour conclure, j'essaye d'être dans les temps, j'espère que je le suis, mais pour résumer, je dirais que former une rigueur intellectuelle, ça doit être fait sur tous les sujets, dans toutes les disciplines, à tous les niveaux. Ça construit en quelque sorte un fond, une base à partir de laquelle les sciences peuvent être construites. Hein, parce que ce qui fait vraiment la validité d'un savoir, ça a déjà été dit, hein, mais c'est la rationalité de sa justification. Et c'est aussi sa validation par une communauté scientifique du moment. Les savoirs obtenus dans le cadre des études scientifiques, qui sont construites de façon bien évidemment rigoureuse, sont présentées dans des publications, dans des congrès, dans des colloques. Elles sont discutées, débattues par les collègues du moment. Et à un moment donné, ces savoirs sont acceptés par la communauté. C'est une acceptation générale. C'est ce qui conduit au savoir du moment et à l'acceptation normalement par la société. Voilà. J'aurais beaucoup de choses à dire aussi sur la dimension culturelle, mais je crois que je n'ai plus le temps. Mais en tout cas, voilà. C'est les quelques mots que je voulais dire. Et merci encore de m'avoir invité. Désolé des problèmes techniques qu'il y a pu avoir.
Bien, donc Alain Sexic va conclure la série des interventions. Donc Alain, je rappelle, est actuellement secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale et il est inspecteur d'académie honoraire. Donc il va lui aussi nous parler de son expérience professionnelle.
Bien, merci. Je parlerai peut-être un tout petit peu du Conseil des sages de la laïcité, de ce qu'il fait tout à la fin. Mais là, dans la perspective du moment qui nous réunit, je me suis remémoré trois situations qui mettaient en jeu le principe de transmission et que j'ai eu à connaître et à vivre en tant que directeur d'école, d'une part, et en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale. Alors, on pourra toujours objecter que ce sont des anecdotes qui ne peuvent pas être représentatives de tout ce qui se passe dans notre éducation nationale, et je sais qu'il y a Mara Goyer, il y a plusieurs Mara Goyer dans de nombreux collèges de France, ça c'est important, mais il y a aussi des situations qui peuvent nous en apprendre et qui nécessitent qu'on réaffirme un certain nombre de principes. Alors je vais en citer trois, pour ma part, elles m'ont appris ces situations, elles m'ont fait comprendre que le pire des racismes, la pire des discriminations, voilà le mot que je cherchais, c'est sans doute la condescendance. Alors la première situation dont je veux vous parler, c'était il y a presque un quart de siècle. J'étais directeur d'école à Paris dans le 20e arrondissement, en zone d'éducation prioritaire. J'entre dans la classe d'une collègue et je vois afficher le travail qu'elle avait réalisé avec ses élèves sur le règlement intérieur. Et je vois un certain nombre de règles énoncées, 1, 2, 3, on ne doit pas, on ne peut pas, etc. Très bien. Et puis je vois que tout le monde avait signé de son seul prénom et le prénom de l'institutrice était au milieu de l'ensemble des signatures. Je parle avec elle de la manière dont elle a élaboré ce travail avec ses élèves et ce qui justifiait qu'elle soit fondue dans la masse comme ça et au même titre que tout le monde. Elle me dit, c'est bien simple, j'ai voulu avec eux co-construire la loi. Co-construire la loi. Comme si la loi ne préexistait pas à l'arrivée de ces nouveaux élèves dans la classe. Comme si ce n'était pas à elle et à nous, enseignants, de la donner, de la faire comprendre, de l'expliquer, de l'expliciter autant de fois que de besoin, mais pas de laisser l'illusion se répandre qu'on pouvait, là, dans la classe, avec nos élèves, co-construire la loi. Tout à l'heure, mon collègue et ami Alain Frugère a employé cette expression, co-construire, mais il ne parlait pas du tout de cela, il parlait des actions de formation que nous co-construisons ensemble avec l'INSPE de Paris, dont il est le directeur. Alors, c'était il y a 25 ans. Tout le monde ne fait pas comme ça. Ça a pu bouger. Cette institutrice a bougé, car évidemment, j'ai parlé avec elle. Et au-delà d'elle, nous en avons parlé dans l'ensemble, dans toute l'école, avec toute l'équipe éducative. Et on s'est mis au clair là-dessus, sur la manière de procéder qui ne pouvait pas tenir de la co-construction. Mais bien des années plus tard, il y a tout juste 4 ans, quand le ministre a installé le Conseil des sages de la laïcité et que nous avons commencé à travailler sur le vademécum de la laïcité, qui essaie de donner des réponses concrètes à des situations concrètes, comme disait l'autre, eh bien, nous avons vu la première version élaborée par des collègues du ministère, des services, et nous avons été frappés par cette phrase dès l'introduction. Il s'agissait, à travers ce vademécum, d'aider les enseignants à co-construire la loi avec les élèves, et à co-construire les règles, à co-construire le principe de laïcité, etc. Donc, évidemment, on a, à notre tour, déconstruit, là, et ça a donné le vademécum de la laïcité à l'école, que je vous invite à lire si vous ne le connaissez déjà. La deuxième situation dont je vais vous parler, c'est celle que j'ai connue dans une commune de Seine-Saint-Denis où j'exerçais alors, là, c'était il y a une quinzaine d'années, j'étais inspecteur, et c'était en école maternelle, une classe de moyenne section, et bon, j'étais arrivé, comme on s'efforce de le faire, en avance. Puis on aime bien les inspecteurs humer un petit peu l'air du temps, on regarde dans les classes, il y a les affichages, etc. Bon. Et je suis attiré par une petite affichette manuscrite, une feuille de papier punaisée au mur derrière le tableau de l'institutrice, la maîtresse, comme disaient à ce moment-là encore les petits de maternelle. Et je vois inscrit, c'était une page avec un trait vertical, comme ça, qui séparait une colonne port, P-O-R-C, et une autre colonne sans port. Alors, du côté de la colonne port, il y avait Claudine, Jean, Paul, Christian, etc. Et du côté sans port, il y avait Karima, Hamid, Karim, etc. Alors, bon, voilà, la séquence se passe. À la fin de la séquence, nous avons un entretien avec l'institutrice, et puis on parle bien sûr de la paix. J'avais repéré aussi au mur le quasi inévitable dessin d'une citrouille, etc. Et nous parlons, et je lui demande à un moment donné le bien fondé, comment elle justifie cette liste port sans port. Et me dit-elle, ce sont les parents qui nous demandent de veiller à ce que, à la cantine, leur enfant ne mange pas de porc. Ah, je lui dis, parce que vous estimez que c'est de votre rôle de veiller à l'application d'un dogme religieux, quel qu'il soit au demeurant, mais celui-ci en particulier, pour vos élèves. C'est à vous de veiller à l'application du dogme. Alors, ça la désarçonne un peu, elle me dit oui, bien sûr, mais ils sont très insistants, les parents. Je dis, écoutez, le menu est affiché à l'entrée, c'est une affaire entre eux et leur enfant, ils voient ce qu'il y a à manger, s'ils ne veulent pas que leur enfant, pour une raison X, Y, ne mange pas tel ou tel plat, ils le voient avec leur enfant, et c'est tout. On n'a pas à surveiller les consciences et à surveiller ce qu'il y a dans l'assiette. Et elle réfléchit, puis elle me dit, oui, oui, vous avez raison, c'est important, la laïcité. D'ailleurs, j'ai décidé de ne plus apprendre à mes élèves au clair de la lune. Je la regarde, je tombe, là, pour le coup, de la lune, et je lui dis, mais quel rapport? Elle me dit, prête-moi ta plume pour l'amour de Dieu. Ah, je lui dis, non, ça, vous pouvez continuer à faire chanter au clair de la lune une des plus vieilles chansons du répertoire français et qui fait lien entre toutes les générations, c'est important, à l'école maternelle. Non, Dieu, si à ce compte-là, on n'étudie plus aucun classique, évidemment, si on doit supprimer le nom, la simple énonciation du nom de Dieu. Bon, là aussi, on a pu reprendre, on a pu y travailler, on a eu des conférences pédagogiques, on a parlé de laïcité, etc. Et les choses ont avancé. La troisième situation, c'est également dans une école de cette commune de Seine-Saint-Denis. J'arrive, c'était un CE2, CM1, je ne me souviens plus bien. et je suis frappé dès mon arrivée par une carte de France dessinée. Ce n'était pas simplement les cartes qu'on cuponnait au tableau, c'était très bien dessiné au demeurant par cette institutrice, une carte de France, et puis voilà. Mais c'était une leçon de lecture, et la leçon de lecture portait sur un livre qui, j'en ai oublié le titre, c'était un livre de littérature de jeunesse, qui contait l'histoire d'un village au Mali qui était en proie à une sécheresse terrible, mais le sorcier qui avait seul pouvoir de faire tomber la pluie avait émigré en France, à Paris, et donc c'était dramatique. Et la sécheresse gagnait, et un jour, un enfant de ce village décide d'aller chercher lui-même le sorcier à Paris. Donc, je passe, il y a plein d'aventures, mésaventures, il arrive à Paris, il est en proie à des tas de tracasseries, etc., mais il finit par retrouver le sorcier, et voilà, ça se termine bien. Alors, ce qui était frappant dans ce livre, c'était de voir que les élèves en question pouvaient connaître beaucoup de choses concernant le Mali, le Sénégal par lequel l'enfant passe, les noms des habitants, leurs mœurs, la faune, la flore, etc. Et à Paris, ben, on avait un visage de Paris absolument misérable, absolument terrible. Il était en proie à des tas de tracasseries, les policiers veillaient partout, du côté de la place Stalingrad, c'était des immondices, etc. Voilà, l'image qu'on avait. Et comme, en parlant avec cette institutrice à la fin, je la félicitais sur la carte de géographie, on n'avait pas eu de leçon de géographie, elle me dit, vous savez, mais c'est très difficile avec eux de parler de la géographie de la France. J'ai eu des réactions très violentes d'élèves qui m'ont dit, ben, nous on est sénégalais, ou nous on est marocains, on n'en a rien à fiche de la France, on n'en a rien à fiche. J'ai dit, mais comment voulez-vous? J'ai évidemment fait le lien avec le fait qu'elle venait de passer 3 semaines sur ce livre, de cet album de jeunesse qui présentait une image absolument déformée et catastrophique de la France. J'ai dit, il y a peut-être quelque chose à faire là, de différent. Bon, parlons pas de visites de visées hautes qui n'avaient pas été faites. Là aussi, on a pu parler, on a pu avancer et trouver des moyens de dépasser cette première approche culturaliste quoi, des élèves. Il fallait leur en donner pour ce qu'ils étaient ou pour ce que supposait cette institutrice qu'ils étaient. Voilà, donc tout, on était encore dans la veine de la transmission de la culture d'origine à et par l'école, hein, que d'autres veuillent, que dans les familles on veuille le faire, qu'on ait des associations pour le faire, qu'on enseigne des langues et cultures différentes à l'université, tout ça, oui, 200 fois oui, mais dire qu'on doit ramener dans nos classes nos élèves à leur seule origine et ne leur en donner qu'en rapport à cette culture, je crois que Tariq Yildiz disait quelque chose de cet ordre tout à l'heure, eh bien non. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Comme exemple, je vous en ai donné 3, c'est bien ça? Il me semble en avoir oublié, hein, mais ce n'est pas grave. Il y en avait bien eu 3. Alors, que faire, évidemment, hein, devant ces situations? Dominique Stappert nous dit souvent, sur les constats, tout le monde est d'accord. Ou dire ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire. Elle nous le dit souvent au Conseil des sages. Alors, faire preuve de pédagogie, répondait Éric Anceau tout à l'heure, eh bien, c'est notamment ce qu'on essaye de faire au Conseil des sages de la laïcité à travers un certain nombre de publications, d'actions de formation que nous menons avec d'autres. Je voudrais dire particulièrement le bonheur qu'il y a à travailler avec Pierre-Henri Tavoyot dans le cadre du diplôme universitaire qu'il a créé ici même en Sorbonne sur les questions de laïcité. Il nous rend bien, nous intervenons dans le cadre de son DU, il nous le rend bien, il intervient dans le cadre des cycles de conférences que nous organisons au CNAM. Voilà, donc il y a des actions de formation qui sont menées. D'autres DU voient le jour en cette rentrée à Cergy-Pontoise, avec la juriste Gwenaëlle Calvès, à Toulouse, avec notre collègue Frédéric de la Morena du Conseil des Sages. Bon, voilà, on essaye. On n'est pas sûr d'arriver à nos fins en faisant, en essayant de faire, on est sûr de n'arriver à rien si on ne fait pas. Voilà, c'est un peu notre philosophie. Et quand je me souviens de la conclusion que donnait Pierre-André Taguieff à un livre déjà ancien, La force du préjugé, c'était en 88. Il citait un personnage d'un livre de Scott Fitzgerald, La fêlure, qui disait on doit pouvoir concevoir que le monde est sans espoir et être cependant décidé à le changer. Bon, moi je suis souvent dans cette disposition-là. J'aurais d'autres choses à vous dire aussi, en particulier faire référence à Régis Debray à nouveau sur la transmission, parce que transmettre, c'est, il faut déjà avoir une histoire. Transmettre, c'est transmettre une histoire. Déjà. Bon, et c'est donc mettre du passé dans le présent. Alors évidemment, chez les enseignants, le soupçon de passéisme ou de ringardisme est terrible. Donc, on a à lutter contre ça. Oui, ben, transmettre, c'est mettre du passé dans le présent avant tout. Et puis, je n'ai pas tout dit sur les publications du Conseil des Sages. Nous avons sorti ce guide républicain. Je le montre parce que on peut le trouver sur le site du ministère et du SCOL en tapant Conseil des Sages de la laïcité. Il y a un petit espace réservé. Et donc, dans ce guide républicain, il y a 3 volumes. Un qui s'intitule « L'idée républicaine » avec une anthologie de textes de Montesquieu à Catherine Kinsler, en passant par beaucoup d'entre nous. Il y a des textes de Philippe Reynaud, de Pierre-Henri Tapoyau, de Dominique Schnapper, de beaucoup d'autres. Et donc, c'est un travail que nous avons assez largement, mais peut-être pas suffisamment diffusé encore dans les établissements scolaires. J'en ai apporté un exemplaire pour le remettre à Emmanuelle Hénin, qui est la grande prêtresse de notre colloque. Voilà. Bravo.
On a encore 4-5 minutes, donc si vous voulez réagir les uns par rapport aux autres, les interventions étaient assez complémentaires, parce que Mara a évoqué la médiation indispensable du professeur. Mais encore faut-il qu'il y ait effectivement des principes, l'autorité, des savoirs, la normativité, etc. Et donc, bon, allez, je vous laisse...
Oui, est-ce que je peux reprendre le micro pour ne pas abuser et crier surtout ? Attention à toi. Bien. Sous forme de proposition...
Après, pas trop long, parce qu'ensuite on prendra...
Oui, je suis au courant. De cette reconquête du bien trouver ses mots... bien argumenté, reconquérir l'admirable pour grandir ensemble, je me permets de tirer 7 propositions, dont une est actuellement en discussion aussi avec tel ou tel représentant des inspections générales.
Moi, j'en ai 19, hein, donc...
Premièrement, je crois que nous devrions reprendre au sérieux l'idée de l'élémentarité des savoirs à enseigner. En lieu et place de ce terme clérical, de fondamental. Deuxièmement, réaffirmer le caractère national des concours. Démastériser, qu'en pense mon collègue, la formation des maîtres au profit de rétablissement de véritables préparations disciplinaires au concours. Troisièmement, et ça nous ramène à toute notre matinée, faire de la maîtrise de la langue française à la fin du primaire, l'objectif de la République, et en tout cas, j'espère, du ministre qui arrive dans le prochain gouvernement. Rompre avec le sociologisme, mais Blanquer a bien préparé le travail. Je veux dire, il faudrait avoir le courage, s'appuyant sur la tradition individualiste, bien comprise des sociologues, arrêter de croire que l'avenir scolaire des enfants est lié à la situation économique, disons, socio-économique des parents. Même les Calvins, dans la pire tradition de la prédestination, n'auraient jamais pensé ça. Reconquérir l'élitisme républicain, mettre à leur juste place les machines. Un élève renseigné, mes amis, n'est pas un élève enseigné. Enfin, redonner sa place centrale à la tradition gréco-latine, qui se caractérise par sa capacité à se rendre hospitalière d'elle-même. Merci.
Donc on va peut-être prendre rapidement les deux questions dans la salle.
Donc moi, j'aurais une question à poser. Oui. Je suis heureuse d'entendre parler des instituts, des professeurs, des écoles. Je déplore que ce soit par la voix d'un inspecteur, malgré le fait que je l'apprécie beaucoup par ailleurs. J'aimerais comprendre pourquoi, lorsque l'on prononce dans le milieu universitaire le mot « école » comme sujet de recherche, cela se cantonne la plupart du temps au collège et au lycée. Moi, j'enseigne en maternelle. Tout ce que vous m'avez décrit de la cancel culture, je le vois percoler à tous les niveaux. Voilà. Et c'est urgent de s'intéresser à la maternelle et à l'élémentaire et de donner la parole aux instituts, pas seulement aux profs. Voilà. Je m'étonne. Je voudrais comprendre pourquoi ils ne sont pas là, les instituts.
Pourquoi on n'a pas les instituts que les profs du secondaire Oui, au sujet de la maîtrise de la langue, est-ce que c'est pas un petit peu tard à la fin de l'école primaire? C'est-à-dire que comme le redoublement a été supprimé, vous avez une quantité d'enfants qui passent de niveau en niveau supérieur sans maîtriser. Or, quand on rate le train, on ne le reprend pas, hein, c'est cuit. C'est-à-dire qu'en CM2, on a des non-lecteurs, effectivement, on ne peut absolument rien faire. Et ça, remettre le redoublement, c'est indispensable. Et je dirais même peut-être, pourquoi pas, faire des groupes de niveau en mathématiques et en français. Est-ce qu'on a tous le même rythme de travail? Est-ce qu'on a tous la même capacité de mémorisation? On est tous différents et on n'en tient absolument pas compte. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'école égalitariste, on va tous au même rythme, ce qui n'est pas le cas. On serait tous Usain Bolt et Einstein, sinon. Enfin, j'aimerais bien.
Merci. Bravo.
Oui. Je peux répondre une dernière
question pour la route. Ouais. Oui, bonjour. Est-ce que un des problèmes qui sous-entend tout ça, c'est que pour avoir une école de qualité, il faut qu'elle s'enracine dans un État-nation. Et un des problèmes, c'est que, bon, je ne vais pas faire une longue thèse, mais après la fin du gaullisme et l'avènement des nouvelles générations, et notamment des nouvelles classes dirigeantes qui sont arrivées, l'État-nation a été déconsidéré. Et donc l'école... peut être plus facilement déconstruite si on n'est pas rattaché à quelque chose qui donne envie de transmettre.
Mara ?
Oui. Alors, je vais peut-être parler du redoublement. Personnellement, évidemment, je suis très opposée au redoublement parce que j'ai vu que ça ne marchait pas. C'est pas parce qu'on fait faire une deuxième fois une année à un élève qui va progresser. Le problème, c'est le manque de réactivité dans l'éducation nationale, son inertie, le fait que quand on voit qu'un élève n'apprend pas à lire en CP, on laisse filer. Mais ce n'est pas en redoublant qu'on le fera progresser, c'est en réagissant immédiatement. Donc ça me semble fondamental. Par ailleurs, pour le premier degré et le fait qu'on n'entend pas assez parler les professeurs du premier degré, je suis entièrement d'accord, mais on n'entend pas non plus beaucoup parler les professeurs du second degré. Et ce que j'invite vraiment chacun à faire, c'est voir ce qui se passe dans les classes. Mais écoutez ce qui se passe dans les classes. Vous voyez, par exemple, à chaque fois, pour tout ce que j'ai entendu, j'avais un exemple. Alors, d'accord, c'est un exemple ou une anecdote, ça ne fait pas une thèse. Mais il y a tellement de choses à dire sur les élèves. Les élèves sont curieux. Les élèves aiment la culture. Les élèves aiment l'effort, mais ils n'aiment pas s'ennuyer. Et c'est différent, s'ennuyer et l'effort. L'effort ne les ennuie pas. Je vous donne un exemple tout simple. Quand je fais le cours sur l'Empire... byzantin en cinquième, je fais mon cours avec les dates, enfin bon les trucs, puis je fais à chaque fois une petite digression mais ultra érudite sur la crise iconoclaste, sur les iconodoux, les iconolâtres, et même là j'avais lu un bouquin sur les iconophages. Bon, je parle de tout ça, des images à Caillère-aux-Paillettes, mais vraiment des trucs dingues. En sixième, même chose, quand on étudie l'acropole, les Parthénons et tout ça, je parle de statues chryséléphantines. Je revois mes élèves un an après. Ils ont tout oublié, sauf iconolâtre, iconodoule, crise éléphantine. Donc vous voyez, c'est vraiment, il faut partir, je ne dis pas que ce n'est pas la lutte du terrain contre l'autre, il faut partir de ce qu'on voit dans les classes, de la manière dont vivent les élèves, dont ils s'intéressent vraiment. Et c'est tellement rassurant d'être avec eux. Alors certes, le constat global est peu reluisant dans l'éducation nationale, certes, on n'y arrive pas, mais les élèves, eux, quand on les voit individuellement, quand on discute avec eux, ils sont rassurants et ils sont source d'optimisme, simplement parce qu'ils aiment la culture, tous. J'ai enseigné 11 ans en Seine-Saint-Denis, ils aimaient la culture de la même manière. Voilà, donc ça, ça marche. Par ailleurs, tu as eu des mots sur l'inclusion. J'ai des classes, en effet, avec de nombreux élèves handicapés, qui sont accompagnés ou pas, qui ont des ordinateurs et tout ça. Et je trouve que c'est une belle idée. Simplement, on se moque du monde parce que cette idée n'est pas financée. C'est simplement ça. C'est-à-dire, si vous mettez des élèves avec un handicap dans les classes, c'est pour que tout le monde soit en commun. Mais en fin de compte, il est impossible de faire un cours commun à tous les élèves. Du coup, on fait le contraire de ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire qu'on abandonne des élèves dans les classes qui sont livrés à eux-mêmes et qui ne suivent pas. Et si vraiment on avait l'ambition de l'inclusion, ben on aurait plus d'AESH, c'est ceux qui accompagnent, on les respecterait. C'est des gens qui sont traités d'une manière mais inqualifiable, qui sont traités comme des pions qu'on envoie comme ça. Enfin, c'est choquant. Voilà. Enfin, j'aurais des milliards de choses à dire, je ne vais pas...
Non, on n'entend pas. Attendez.
De quoi ? Moi, ça fait 4 ans que je travaille sur l'école inclusive, la scolarisation des élèves handicapés. J'ai absolument lu toutes les études nationales, internationales. Je n'ai pas trouvé une seule étude qui prouve les bénéfices de cette scolarisation. Quand vous avez un autiste qui hurle toute la journée à côté d'enfants qui ont des troubles de l'attention, c'est, l'école inclusive, ce n'est pas compliqué. Moi, une scolarisation ordinaire, c'est 7 000 euros par an. En spécialisé, c'est 60 000 euros.
Alors,
c'est
je ne suis pas spécialiste,
économique.
Mais je peux vous dire ce que vous dit un élève qui a un handicap quand il est avec les autres et qui se sent comme les autres, je trouve.
Alors, en primaire, madame,
essentiel.
On a absolument.
Et par ailleurs, les autres apprennent des choses à son contact, et moi aussi.
Venez en maternelle avec un trisomique, un autiste, au milieu de 35 enfants, il faut arrêter. Franchement, le réel, ça fait mal, mais pourtant, ça existe.
Il faut le financer.
C'est... Alors, il me semble.
Donc, c'est un débat.
C'est ça le problème.
J'ai compris.
On peut
oui,
dire
oui, bien sûr. Alain Sexig, encore. Attendez.
C'est ça le problème avec l'école. C'est qu'on peut tout dire et son contraire, s'appuyer sur des réalités, et c'est sans fin. Donc, on peut y être encore un bon moment. 30 secondes sur l'école élémentaire, l'école primaire. Enfin, élémentaire, ça veut dire c'est maternelle et élémentaire, hein, école primaire. On s'est trop longtemps reposé sur le fait qu'on avait une très bonne école du premier degré. Donc, on n'a pas assez travaillé là-dessus. Et c'est évident qu'il faut tout reprendre. Je ne peux pas vous dire le contraire. Bon. Et d'ailleurs, moi, je continue à parler d'instituteur, d'institutrice, parce que j'aimais ce mot. Je l'ai été, je le suis foncièrement. Instituere, celui... les institutions, c'est la même racine. L'instituteur, c'est celui qui aide l'enfant à se tenir debout. Sto, sta, stare. Bon, c'est ça. Donc, oui, il faut reprendre. Il y a beaucoup de choses à reprendre sur l'école élémentaire. Sur l'école inclusive, bon, l'inclusion. Il se trouve que j'ai démarré ma carrière il y a fort longtemps, il y a 75 ans. J'ai démarré dans des classes dont personne ne voulait, qu'on appelait à l'époque classes de perfectionnement, par antiphrase. C'était des classes pour enfants en grande difficulté scolaire, voire handicapés, un peu à la marge de l'école. J'ai poursuivi dans cette voie, puisque j'ai été directeur d'un institut médico-pédagogique. Dans les tout premiers temps, dans les années 73-74, j'essayais, autant que faire se peut, d'intégrer mes élèves progressivement dans les classes du cursus ordinaire. Quand j'étais directeur d'un institut médico-pédagogique, important, un institut médico-pédagogique à Paris, avec 6 postes de professeurs donnés par le rectorat, ça n'est pas rien, j'essayais aussi de construire des ponts avec l'école voisine, etc. La préoccupation de l'intégration, comme on dit aujourd'hui, de l'inclusion, elle est très ancienne. Elle n'a pas démarré avec l'adoption du terme école inclusive. Mais le problème, c'est qu'avec de nouveaux textes, on en a fait une exigence absolue. Or, d'expérience, moi je sais qu'on peut être encore plus seul en étant au milieu des autres quand on est porteur d'un handicap, comme on dit aujourd'hui. Et donc, il faut vouloir cette intégration dans toute la mesure du possible, autant que faire se peut, mais pas coûte que coûte. C'est le cas de le dire, puisqu'on a évoqué les questions financières. Moi, je crois qu'il faudrait s'en tenir à cette ligne. Il y aurait beaucoup, mais ça, c'est un autre colloque encore. Quant aux élèves qui retiennent ce qu'on leur dit, iconoclaste, etc., ben, ça prouve une chose. Ils retiennent ce qui est exigeant. Ils retiennent ce qui les élève, par définition. Donc, qui les élève. Il faut lire de ce point de vue le reportage dans le tout dernier numéro de Charlie Hebdo, c'est les deux avant-dernières pages, d'un travail qui a été fait sur la liberté d'expression et la laïcité dans une classe de lycée professionnel d'une petite ville de l'Ouest, hein, qui n'est pas mentionnée pour des raisons de sécurité. Et on voit comment les élèves savent tout du Chevalier de la Barre. Ils sont capables de reprendre les débats autour de la loi de 1905, etc. Ils ont étudié ça, et ça, on peut espérer que ça sera à vie pour eux. Des élèves de lycée professionnel, c'est pas évident non plus. On n'avait pas évoqué cette dimension de l'école. Merci.
Merci, merci Eric pour l'animation de la table ronde. Merci à